Bonsoir. Bienvenue dans ce groupe de partage du lundi 14 mai 2012. Voilà, je me réjouis de l'inaugurer, je me réjouis de vous accueillir ici dans cette pièce et je me réjouis aussi de tous les frères et sœurs qui en ce moment même sont avec nous lorsqu'ils écoutent l'enregistrement chez eux. Voilà, alors je vais démarrer par un petit son de cloche pour vous inviter à ce qu'on démarre tous ensemble. Merci. Voilà, alors je vais introduire ce groupe en quelques phrases et puis ensuite nous pourrons librement échanger, partager sur les sujets qui sont les nôtres, quel que soit le sujet, puisqu'il s'agit de qui nous sommes vraiment. Donc quel que soit le sujet, d'une manière ou d'une autre, ça concerne qui nous sommes vraiment. Donc on n'est jamais hors sujet, c'est quand même une bonne nouvelle dans ce groupe. Voilà, alors avant de commencer, je vais laisser la direction de la soirée et comment sera réalisé son enchaînement. Je vais laisser ce contrôle à l'esprit en citant quelques phrases d'un cours en miracle qui m'aide à lâcher le contrôle et à laisser venir ce qui doit venir, ce qui est juste de venir. Et ces phrases disent ceci: je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Et puis, la semaine dernière, j'avais été guidé à citer le titre d'une leçon que je vais vous citer maintenant, qui est la leçon 137 de Un cours en miracle, qui dit simplement: quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Et je suis également guidé à vous lire le premier chapitre de cette leçon, qui dit: l'idée d'aujourd'hui reste la pensée centrale sur laquelle repose le salut. Car la guérison est l'opposé de toutes les idées du monde qui s'attardent sur la maladie et les états séparés. La maladie est une retraite à l'écart des autres et une coupure d'avec l'union. Elle devient une porte qui se ferme sur un soi séparé qu'elle garde isolé et seul. Voilà, ça continue, mais je vous laisserai le découvrir. Il y a plusieurs pages. Et puis on pourra parler sur le, si c'est juste, on pourra parler sur le sens de cette leçon. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Voilà, et donc c'est un groupe sur la non-dualité, la spiritualité, sur la réalité bien plus vaste que notre corps, dans laquelle parfois nous nous retrouvons et parfois que nous recherchons sans vraiment savoir que nous la recherchons, comme répondant à un appel intérieur qui est parfois inexpliqué, mais qui dit: va vers la lumière, avec ses propres sensations, ses propres mots, élève-toi, trouve un sens à ce que tu fais, mets de la conscience dans ce que tu fais, parce que à ce moment-là, tu remplis ta mission, tu sers ta vraie nature. Voilà. En tout cas, je peux dire que dans ma vie, c'est arrivé ça, le sens de qu'est-ce que je fais sur Terre, et le sens de d'avoir envie de rassembler les gens, de diffuser des choses, de créer des réseaux, de proposer des activités aussi d'élévation. Et sans savoir vraiment pourquoi je faisais ça, je savais que j'avais à faire ça. Et je n'ai conclu que mon âme ou mon être supérieur, la partie de moi qui est vaste, qui n'est pas confinée au corps, eh bien me dirigeait pour prendre un petit peu de l'envol, de la largeur, de l'expansion, de la conscience, de la lumière. Et je sais que depuis que j'ai répondu intérieurement à cet appel, ma vie s'est transformée littéralement. Et c'est ce qui me dit que cet appel est vrai, cet appel est juste, et que tôt ou tard, nous entendrons tous l'appel, parce que l'appel est engrammé en nous, et qu'à un moment donné dans notre vie, il choisit de se manifester. Et le moment, en général, correspond au moment où nous sommes prêts à y répondre. Sinon, bah, c'est quelque chose comme une voix qui est lointaine, qui dit des choses, et qui se manifeste parfois par des pensées, parfois par des sentiments, parfois par des états. Parfois, ça peut être à l'occasion d'une rencontre amoureuse. Nous pouvons rencontrer une vastitude, quelque chose de grand, d'inexpliqué. Voilà, bienvenue à tous les partages sur ce sujet, puisque nous sommes des êtres beaucoup plus vastes que nous pensons l'être, qui ne sommes pas limités, de nature divine, beaucoup plus puissants que nous pensons l'être, et cette puissance est amenée à se révéler à nous lorsque nous autorisons que cela se passe, tout simplement, lorsque nous laissons de côté la croyance que nous sommes premièrement séparés les uns des autres et deuxièmement limités dans nos pouvoirs et dans notre être, dans notre nature. Voilà, donc dans ces groupes de partage sur la non-dualité, une phrase revient souvent: Dieu est tout ce qui est. Où Dieu est, si on l'a dit en deux mots, comme Jésus le disait il y a 2000 ans. Et tout de suite, j'ajoute que Dieu n'est pas un concept dogmatique ni une entité séparée de nous, mais représente la totalité de l'existence, qu'on peut nommer Dieu, qu'on peut nommer l'univers, qu'on peut nommer la source. Qu'on peut nommer la totalité de l'existence, mon soi supérieur, etc. Hein, tout ce qui, pour nous, représente l'amour, quelque chose de vaste, quelque chose de pas limité, et qui englobe tout ce qui est. Alors, si nous partons de cette intuition-là que Dieu est tout ce qui est, Dieu ne s'oppose jamais à rien puisqu'il est tout. Ça va de soi puisqu'il s'opposerait à lui-même s'il s'opposait à quoi que ce soit. Donc Dieu dit, ne connaît qu'un seul mot, c'est d'accord. Quoi que ce soit que je pense, que j'imagine, que je fais dans cette vie humaine ou pas, c'est d'accord. C'est d'accord par avance puisque c'est aussi Dieu qui le fait, hein, lorsque je le fais. Et donc Dieu ne peut pas juger, hein. Dieu est pur accueil puisqu'il dit d'accord à tout. Il n'y a jamais de refus, il n'y a jamais d'opposition. Voilà, donc ce soir on peut en effet parler de ces qualités divines, hein, qui sont l'amour, universel, hein, par opposition à l'amour humain qui connaît un opposé. L'amour universel est le bien sans opposé. L'amour sans opposé. On peut parler de notre réalité que nous vivons sous l'égide de l'ego, la personnalité, celle qui se croit séparée des autres. Et on peut parler de l'unité par opposition, celle dans laquelle il n'y a aucune séparation et où il y a seulement Dieu, et celle dans laquelle nous sommes déjà maintenant, même si nous pensons fortement autre chose. Et à ce propos, nous pouvons parler du rêve, de l'illusion, de ce qui fait que nous voyons des choses séparées, pensons vivre une réalité différente de celle des autres. Voilà, on peut parler des jugements, hein, ce qui nous coupe de qui nous sommes vraiment, qui essaye de maintenir cet état de séparation, et aussi de l'appel à s'éveiller qui nous rappelle de manière sourde ou pressante, nous sommes un, sous des aspects qui semblent séparés. Donc il y a bien des sujets, et parfois dans notre vie, ça semble s'imposer à nous, qu'il doit bien y avoir autre chose que cette réalité humaine que nous vivons, et qui semble très insatisfaisante, et pas axée sur le bonheur et l'amour comme nous, intimement, nous voudrions qu'elle soit. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets, mais en vérité, tous les sujets ramènent à un seul sujet qui est Dieu est. Seul l'amour existe et il n'y a rien d'autre à part Dieu qui inclut tout, y compris ces aspects de notre réalité humaine qui sont dans cette vision-là comme imaginé, puisque il n'y a que l'unité, Dieu est tout, la séparation ne peut être qu'imaginée, ne peut être que rêvée. Et nous avons choisi un moment de notre aventure humaine de répondre à la question « Que se passerait-il si nous n'étions pas divins ?» Que se passerait-il si autre chose que l'amour pouvait exister, alors que dans l'unité, seul l'amour sans opposé existe? Eh bien, cette expérience a été autorisée, et ça a donné ce que nous vivons dans notre monde actuel, avec cette réalité et cette dualité qui permet des opposés entre bonheur, malheur, amour et haine, angoisse, dépression, tristesse, et j'en passe, vous connaissez certainement très bien tout ça. Voilà. Et comme la réalité de Dieu est, ne peut pas souffrir d'exception, alors nous avons imaginé que la séparation était possible. Et nous avons donné à cette séparation, avec notre pouvoir divin, qui a été honoré dans notre désir d'expérimenter le non-amour, c'est vraiment notre choix, hein. Ça ne nous est pas tombé dessus comme une punition. Eh bien, avec notre pouvoir divin, nous avons fait en sorte que cette réalité que nous vivons, cette réalité humaine, conditionnelle, ait des aspects très puissants de réalité, très tangibles. Et il s'agissait d'un jeu, d'une sorte de grande farce cosmique, d'une grande blague, comme disent souvent les êtres spirituels. Tout ceci n'est qu'un jeu pour sembler sortir de l'amour, pour voir ce que c'est que l'amour vu de l'extérieur, alors que dans l'unité, il n'y a pas d'extérieur à l'amour, il n'y a pas autre chose. Donc nous avons rêvé le non-amour, comme un poisson sort de l'eau pour voir que l'eau c'est tellement important qu'il n'a de cesse que d'y retourner. Donc on peut dire qu'on joue à ça, on joue au non-amour et on joue à trouver de nous-mêmes, alors que nous sommes plongés dans une profonde obscurité, en apparence, nous voulons trouver le chemin de la lumière par nous-mêmes, sans l'aide de quiconque. C'est ce qui, à mon sens, produit en ce moment une accélération des ressentis lumineux, une accélération des éveils, des métamorphoses, des appels à s'éveiller puissants. C'est ce qui fait que ça se passe à toute vitesse, depuis mon ressenti, que ce qui va vers la lumière attire et accélère l'évolution comme pour moi, comme jamais, je n'ai été témoin de ça dans ma vie. Il y a une sorte de grand toboggan sur lequel nous sommes propulsés en ce moment depuis l'ombre vers la lumière, comme si c'était irrémédiable, irréfutable, et que nous avons comme une soif énorme, y compris des personnes qui étaient très loin de la spiritualité, à nous réveiller à notre vraie nature. C'est pour ça qu'il y a ces groupes de lundi, et puis prochainement des samedis et des dimanches, pour répondre à ces appels qui sont pour moi de plus en plus nombreux. Et pour moi, je dirais que intimement, c'est terminé les groupes où nous étions dans notre coin. Pour moi, c'est les groupes aux horaires de pointe, comme dans le métro, là où on s'entasse. Parce que ça concerne tout le monde et de plus en plus de monde. Donc j'ai une impulsion forte d'élargir ces groupes. J'ai une impulsion forte de les rassembler dans les jours où c'est possible pour la plupart des personnes. Et puis évidemment de continuer à les diffuser par voie d'Internet pour ceux qui nous suivent à distance. Voilà, sur cette introduction, je cède la parole. Rappelez-vous que vous pouvez parler ou ne pas parler, que les silences font partie des partages, et qu'il n'y a pas de choses qui ne peuvent pas être dites. Tout sujet qui trait à une apparente difficulté dans notre monde est éminemment le sujet de ce qui nous réunit ce soir, mais également toutes les lumières, tous les éclats lumineux que nous voyons apparaître dans notre vie comme autant de rappels de notre vraie nature. J'ai parlé.
Viviane parlait de ces ouvertures qu'on peut constater partout, des ouvertures de cœur, des ouvertures quelque chose de nouveau qui n'est pas nouveau. Et ces ouvertures, c'est cette nouvelle spiritualité qui n'est pas nouvelle, et en particulier et surtout cette notion de non-dualité, c'est-à-dire cette notion d'unité de toute chose, et que ce qui existe est de toute éternité. Il n'y a que ça de réel. Donc c'est extrêmement simple. Et pourquoi ça paraît si compliqué? Parce que justement, nous sommes, comme Avi nous le rappelait, c'est une façon d'ailleurs de parler de choses dont on ne peut pas parler, parce que quand on dit que nous avons choisi d'imaginer la séparation, la question c'est qui a choisi? Et c'est pas le petit nous que nous pensons être maintenant. C'est un être beaucoup plus vaste qui est totalement indicible, dont on ne peut pas vraiment parler, puisque ici nous sommes réduits à un monde à trois dimensions. Nous fonctionnons avec un ADN bridé, un ADN qui normalement devrait fonctionner à 12 brins, on n'a que 2 brins, un troisième brin qui est activé, et donc nous sommes comme bridés dans une dualité extrêmement bien imaginée, comme si on est ficelé et que on a vraiment l'impression d'être séparé. Donc on ne cesse de dire que la séparation n'existe pas, en attendant, elle n'a jamais paru autant réelle. Et c'est très important, et effectivement, on l'accueille parce que ça, c'est nous qui avons créé ça. Donc c'est comme si on s'est piégé dans une prison, on s'est enfermé, on a acheté la clé, on a oublié, on a fait exprès pour s'amuser, vraiment à prendre tous les risques, c'est une façon de parler bien sûr, tous les risques pour imaginer être séparés. Et c'est remarquablement fait parce que ça paraît absolument la moindre des choses. On dit mais non, mais je suis le corps physique, j'ai des problèmes, je me sens bien, je me sens mal, et puis j'ai peur de la mort, etc. Donc je suis vraiment dans la séparation. C'est tellement difficile d'ailleurs, c'est tellement bien fait que dans les siècles et les millénaires précédents, eh bien, il y a eu toujours un appel à se réveiller partout, chez tout le monde. On a des prophètes, on a des gens, puis même des gens absolument inconnus partout, des gens qui ont vécu une ouverture de cœur à leur façon, c'est-à-dire un sens de l'amour, un sens du partage, un sens du don, un sens de la vraie création. Mais il y a eu toujours récupération par l'ego avec cette notion, non, non, mais il y a séparation. Et en particulier, là, il n'y a aucune accusation de personne, parce que justement, le jeu est remarquablement fait. Quand il y a un système qui est établi pour qu'on atteigne quelque chose qu'il faudrait faire, c'est ça la dualité. Et donc, si j'établis une religion et que je crée un système religieux avec des codes, avec des credos, avec quelque chose de systématique que j'enferme, comme font toutes les religions d'ailleurs, c'est parce qu'en fait c'est récupéré par l'ego, par ce sens de séparation, cette peur, en disant mais non, il y a quelque chose à faire, donc on va atteindre un dieu magnifique, peut-être un dieu amour, etc., mais qui est extérieur. Or, le principe de base, là, l'essence de qui nous sommes, c'est qu'il n'y a pas d'extérieur. Ce qui est, est. Mais ce n'est pas évident, parce qu'encore une fois, pourquoi ce n'est pas évident? C'est parce que l'illusion est remarquablement faite. Et donc on semble vraiment victime, parce que le fait d'être séparé ou de croire être séparé, on est séparé du reste et le reste est menaçant. Donc il faut attaquer et défendre. Attaquer et défendre, qu'est-ce que c'est qu'attaquer? C'est vouloir quelque chose de différent. Mais ce qui existe, ce qui est, veut rien de différent, puisque c'est éternel, infini, ça, cela est. Alors on dit que c'est amour. C'est souvent difficile à comprendre au départ, parce que l'amour dans ce monde de séparation, ça veut dire être gentil. C'est-à-dire, tu es mon enfant, je ne te laisserai pas tomber. Et puis, puis même si je suis gentil, je vais aller m'occuper de gens qui souffrent, etc. Donc je vais être généreux. Je vais apporter des choses à ceux qui en manquent. Je viens de dire, je vais apporter des choses à ceux qui en manquent. Mais si vraiment Dieu est tout ce qui est et si donc c'est moi, c'est nous, c'est tout. Et comment est-ce que tout ce qui est peut dire il y a quelque chose qui manque? Personne ne manque de rien puisque tout le monde est Dieu. C'est ça qui est. Donc c'est très simple à dire, mais c'est pas évident à intégrer dans une vie dans laquelle la séparation a été soigneusement imaginée. On semble vraiment victime. Et d'ailleurs, quand on dit on semble victime, l'ego, c'est jamais le bourreau, c'est la victime. Même un conquérant, même quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui cherche à gagner encore plus d'argent, qu'il a une fortune sous les pieds, eh bien, il se sent victime. C'est pour ça qu'il a besoin de plus d'argent, de plus de pouvoir. Il faut qu'il soit reconnu, il faut qu'il gagne les élections. Alors on va dire, oui, il va gagner l'élection parce qu'il se sent appelé, par exemple, à mieux servir les autres par une nouvelle politique. Bien sûr, il y a un appel à ça. Simplement, tant qu'on n'est pas rentré dans la vraie non-dualité, il y a comme un ver dans la pomme. Parce que si j'essaye de faire un nouveau système politique, ou religieux, ou social, ou familial, enfin ce qu'on veut, mais si je fais ça en voyant mes frères et sœurs en manque, je crée ce manque, parce que je suis créateur, parce que je suis ce qui est, et ce qui est éternellement créateur. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est créateur. Et comme il n'y a que Dieu, eh bien nous sommes l'expression de Dieu. C'est pour ça que nous sommes aussi créateurs. Et quand on dit nous, évidemment, on ne peut pas savoir de qui on parle, parce que on en parle dans notre monde duel. Dans notre monde séparé, on en parle au niveau de la séparation, au niveau de l'identification à un petit personnage, qui en fait n'est pas réel, mais qui est superbement imaginé et qui semble bien réel. Donc, on commence à regarder cela en face, et évidemment, la seule solution, c'est de l'accueillir avec amour, c'est-à-dire en l'accueillant, en accueillant le jeu qu'on a choisi de jouer, ou le jeu qui a été choisi, on peut dire, parce que on peut dire, mais moi, j'ai pas choisi ce jeu, moi, je suis là. Non. Alors, on peut dire que le jeu est choisi. Et peu à peu, on s'aperçoit qu'évidemment, on ne contrôle rien. C'est pour ça que tout le monde veut davantage être connu, avoir du pouvoir, résoudre les problèmes. Et on apprend à nos enfants et on nous a appris à régler les problèmes, c'est-à-dire à essayer de s'en sortir dans une séparation qui est considérée comme réelle. On a vraiment des problèmes. En apparence, bien sûr. Alors qu'en fait, il n'y en a pas, parce que Dieu n'a pas de problème. C'est tellement difficile à concevoir, c'est que les religions ont imaginé un Dieu en disant, voilà, c'est un Dieu qui établit des règles qu'il faut atteindre et qui va punir ou récompenser. Mais c'est un Dieu imaginé, c'est pas Dieu, ça. Alors quand on dit que c'est pas Dieu, Dieu, c'est un mot, comme disait tout à l'heure Avi, c'est un mot dont on se sert. Donc si j'ai face à moi un frère ou une sœur qui me parle de Dieu comme quelque chose d'extérieur, ok, je comprends. Et donc c'est un Dieu extérieur, donc c'est une construction. On appelle ça un dieu anthropomorphe, c'est un dieu à visage humain, c'est-à-dire un dieu séparé, un dieu qu'on va atteindre qui est quelque part. C'est pour ça que Jésus, par exemple, je dis par exemple, entre autres, disait il y a 2000 ans, le royaume est en vous, n'allez pas le chercher ailleurs, on vous dira, il est ici, il est là, il est dans un temple, il est à l'église, dans tel endroit, où vous voulez, c'est en vous. Pourquoi ? Parce que Dieu est tout ce qui est, et créé, et nous sommes la création de Dieu. Mais pourquoi c'est si difficile à comprendre? Parce que on a oublié que créer, c'est pas projeter à l'extérieur comme font les hommes. Si je crée une baguette de pain, ok, je prends de la farine, et puis voilà, je jette ma baguette de pain, je la donne à quelqu'un, et ma baguette de pain, c'est pas moi. Mais la création, c'est pas ça. Dans la réalité, la création, c'est l'extension. C'est l'amour qui s'étend lui-même. C'est l'amour qui se donne lui-même à l'infini. Et bien sûr, l'amour est esprit. Mais comme c'est un esprit infiniment créateur avec un potentiel infini, il imagine, avec cette pensée de séparation, un monde incroyable de dualité qui est l'univers entier qu'on peut voir. Et là, on s'amuse à s'incarner dans ce monde. Et le but de l'incarnation, justement, c'est le réveil. C'est pas facile à comprendre, en même temps, c'est très facile. Parce que on revient à la base, à l'origine, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que Dieu est vraiment tout ce qui est? Est-ce que l'existence, la vie, est une? Ou est-ce qu'il y a la vie et puis autre chose? Dans ce jeu de la séparation, il semble y avoir autre chose. On dit, c'est bien gentil, mais vous voyez, le mal existe. La maladie existe, la mort existe. Et dans la leçon 137 que Avi a cité tout à l'heure, où il disait, lorsque je suis guéri, je ne suis pas guéri seul, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi est-ce que quand je dis, lorsque je suis guéri, je ne suis pas guéri seul? C'est parce que qu'est-ce que c'est qu'être guéri? Être guéri, c'est avoir une vision différente et je vois que tout le monde est guéri. Donc je ne suis pas guéri seul, je vois que je suis guéri, mais les autres aussi. C'est très simple, parce qu'il n'y a que Dieu. Et donc la maladie n'existe pas, elle est imaginée. Mais encore une fois, elle est imaginée avec notre pouvoir divin créateur qui est immense. Donc elle est très bien imaginée. Et on semble vraiment malade. Qu'est-ce qui semble malade? Le corps physique ou l'émotionnel. On peut avoir une maladie mentale, etc. On dit il y a des schizophrènes, il y a des fous, etc. Mais c'est inventé, c'est des termes de l'ego, ça. Personne n'est fou. Dieu n'est pas fou. Or, il n'y a que Dieu. Personne n'a de problème. Est-ce que Dieu a un problème? Si effectivement j'imagine un Dieu extérieur qui va créer des règles qu'il faut transcender ou pas transcender, etc., d'accord, mais c'est une imagination, ça. C'est la dualité. La réalité, c'est que Dieu est tout ce qui est, et nous sommes cela. C'est ce que disent tous les grands maîtres, etc. Je suis cela. C'est l'alpha, l'oméga, je suis celui qui est, je suis celui qui suis, etc. Toutes ces paroles qu'on entend, mais qui ont un sens qui est au-delà des mots. Et c'est le sens, c'est Dieu est tout ce qui est, c'est-à-dire il n'y a que la vie, il n'y a que le vivant, et ça c'est qui nous sommes. Et qu'on le veuille ou non, bien sûr, on a encore une fois, c'est très très bien fait la pièce de théâtre, parce qu'on semble être un petit personnage isolé. Mais en fait, d'où vient ce personnage? Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'écouter cet enregistrement là, dans votre monde, dans votre conditionnement, là où vous êtes, avec une date précise, dans un jeu qui semble se dérouler dans un temps linéaire? Ça vient d'où ça? Là, effectivement, on va dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, bon, tout à l'heure, Avi parlait de silence. Effectivement, il y a un silence parce que si ça existe, tout ça, si cela est et c'est qu'amour, c'est là, c'est présent. Et comment est-ce qu'on peut avoir accès à ça, même si c'est notre essence même? En laissant cela, ce qui est nous, nous parler. Et nous toucher dans cette illusion d'ego. C'est ce qu'on veut dire quand on dit que le ciel vient maintenant sur la terre et que c'est une époque clé. C'est pour ça, tout à l'heure, Avi parlait en disant, et il n'y a pas que lui, qu'il y a des ouvertures partout, parce que c'est dans le plan divin, dans le jeu cosmique, la période actuelle, je parle de 2012, 2011, 2012, 2013, là, ce début du troisième millénaire, il y a des énergies nouvelles et il y a vraiment un plan gigantesque qui est fait pour que cette planète et ceux qui sont incarnés se réveillent. Et ce n'est pas limité uniquement à cette planète, c'est également ça concerne l'univers entier. Comment est-ce qu'on se réveille? Le grand éclat de rire, c'est que ça se fait tout seul et que simplement c'est une ouverture à l'amour par le cœur, mais non pas par la tête. Alors c'est vrai que je suis en train de dire des mots qui parlent effectivement au mental, qui sont logiques. Ce n'est pas nier ça, mais c'est par le cœur, c'est par l'expérience des mots que ça prend un sens. Courant Miracle dit qu'effectivement, les deux systèmes de pensée, celui de l'ego, c'est-à-dire celui de la séparation, et le système de pensée de ce qu'il appelle le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'unité de toute chose, eh bien ces deux systèmes de pensée sont extrêmement logiques. Simplement, l'un repose sur un mensonge, sur une non-réalité, c'est l'ego, c'est la séparation existe, et évidemment on l'a bien fait, donc ça semble vraiment exister. Et puis l'autre, c'est non, la séparation est absolument impossible, Dieu est tout ce qui est, et nous sommes cela. Et donc, chaque système de pensée est extrêmement logique. C'est pour ça que ça nous semble très compliqué aux uns et aux autres. Par moments, ça nous remet tout en question, c'est vrai. Mais ça remet quoi en question? Le monde qui est vu avec la séparation. Effectivement, ce monde-là, il n'a rien à voir avec un monde qui est vu sans la séparation. C'est l'un ou l'autre. Ou la séparation existe ou n'existe pas. Ou l'amour, la présence, la lumière est tout ce qui est, et Dieu est tout ce qui est, et nous sommes cela. Où il y a séparation. Mais je dirais que s'il y a séparation, s'il y a vraiment danger, etc., on ne serait pas là. Ça aurait sauté depuis longtemps. Le fait même que la planète tourne, qu'il y a des saisons, qu'il y a tout ça qui existe, c'est comme un signe incroyable qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui sous-tend tout ça. C'est comme, disons, la nature, c'est l'image de notre unité. Même si la nature s'auto-dévore, on voit les animaux qui se mangent entre eux, etc. Tout ça, ça n'arrête pas de naître, de vivre et de mourir, en apparence. Mais finalement, la vie, elle est vie. Et même si la planète saute, l'univers entier continue. Parce qu'il y a des planètes qui sautent dans l'univers. Et puis il y a tout un mouvement, et dans un temps illusoire, mais qui semble réel. Tout ça, évidemment, ce sont des concepts qui peuvent paraître très nombreux, mais finalement qui se réduisent, qui se ressemblent sur quelque chose de très simple, c'est la non-dualité ou la dualité. C'est l'un ou l'autre. encore une fois, comme j'ai commencé cette intervention, encore une fois, pourquoi ça semble si difficile? Parce que l'illusion est très bien faite. Nous avons une puissance de création en tant qu'être divin qui est absolument incroyable. Et donc, cette puissance est remarquablement faite. On semble vraiment séparé, c'est pas nier ça. Et donc, ça va créer des émotions, des impressions d'être pas à la hauteur, d'impressions d'être persécuté, d'être pas aimé par les autres, d'être en manque. Ça, c'est pas nier ça. D'avoir des colères, d'avoir des envies de meurtre, puis aussi, avec, bien sûr, avec des envies d'aimer, de s'ouvrir, de prendre dans les bras, de danser ensemble, des envies de rire. Ça, c'est notre envie profonde, c'est qui nous sommes vraiment. Comme dit le courant miracle, la volonté de Dieu, il n'y a que ça. La volonté de Dieu pour toi, c'est le bonheur. C'est le bonheur parfait. Un enfant qui se réveille, un petit enfant, il ne pense qu'à jouer, il a confiance. Peu à peu, on lui apprend le doute, on lui apprend à attaquer, à se défendre, on lui dit « fais attention, tu es victime, tu risques des victimes, tu dois te protéger ». Et donc, on apprend la dualité à l'enfant. Mais il est venu pour ça. Il est venu pour faire cette expérience duelle. Et donc, notre vrai travail consiste à vraiment rester centré sur ce qui est vrai. Et c'est là notre rôle. Et j'ai tiré ici la leçon 98. « J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut ». C'est la leçon 98 du courant miracle. « J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun a un rôle. Parce qu'il y a une pièce de théâtre qui est faite par qui nous sommes, qui est à l'origine de ce jeu et qui forcément a une issue totalement positive. C'est-à-dire que tout le monde se réveille. C'est obligatoire à cause de qui nous sommes. Et c'est pour ça que ce jeu, même cette pensée de séparation, on en rit. On dit mais c'est impossible d'être séparé. C'est tellement impossible qu'on va s'amuser à faire semblant d'être séparé. C'est pour ça que le courant miracle dit, ça a commencé quand le Fils, c'est-à-dire l'expression du Père, l'expression de la Source, quand cette expression-là, c'est-à-dire qui nous sommes, a oublié de rire à la pensée de séparation. C'est pour ça que maintenant, on nous dit, c'est l'heure de rire, de vous amuser, de danser, de vivre vraiment le message, qu'il n'y a pas de problème, que nous sommes la lumière, nous sommes l'amour, et rien d'autre. C'est ce que le courant miracle appelle le Christ, mais c'est simplement un vocabulaire particulier. Hein, on passe allègrement au-delà de tous les vocabulaires. Hein, on est cela, je suis amour, et j'écoute mon cœur, et mon cœur le sait. Et chacun écoute son cœur, et alors on fait silence, on prend son temps, on se réveille la nuit par exemple, et puis on respire. On prend son temps, on fait silence. On fait silence aussi dans la journée, on va faire des courses, on marche dans la rue, on s'arrête un peu, et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Mon rôle, c'est d'être dans l'amour. Mon rôle, c'est d'ouvrir mon cœur. Après, j'écoute ma guidance pour savoir... Tiens, si je vais téléphoner à une personne, si je vais faire telles études, si je vais avoir telle relation, enfin bref, poursuivre des choses, faire des choses. Mais avant tout, mon rôle, ça consiste à accueillir la vérité. C'est pour ça que la spiritualité, au sens où nous la plaçons ici, elle est fondamentale. C'est la clé que tout le monde cherche. C'est pas une petite chose accessoire. C'est pas quelque chose qu'on fait le dimanche entre 10 et 12. Ou quelque chose qu'on fait une fois par semaine ou une fois par jour entre 7 et 8. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui est un état d'esprit recentré, réaligné en permanence. Et c'est ça qui commence à parler au cœur de chacun en disant « Mais bon sang, c'est ce que je veux. Ok, j'ai des enfants, j'ai envie d'une relation, j'ai envie de ceci, cela, je voudrais faire tel travail, telle réalisation, d'accord. Mais avec quel état d'esprit ? Avec amour. Avec amour, avec amour, avec amour. Parce qu'il n'y a que cet amour qui a un sens. Il n'y a que ça qui parle à mon cœur, vraiment. Et la guérison, effectivement, c'est de voir que tout le monde est guéri, que tout le monde est lumière, et qu'il n'y a pas de dualité. Il y a des termes, il y a des mots. Alors, la difficulté, évidemment, apparente, c'est que comme nous sommes plongés sur cette terre dans un univers apparemment extrêmement duel, très très bien fait, on peut se dire mais comment est-ce qu'on peut parler de dualité alors que tout comment on peut parler de non-dualité alors que tout semble duel, tout semble menaçant, séparé. On a une planète qui bat de l'aile, qui a une écologie qui souffre, etc., apparemment. Et on dit tout va bien. C'est pas évident. Et en même temps, c'est évident parce que notre cœur le sait. Et c'est l'époque du réveil. Donc, on nous sommes encouragés à dire oui à cette époque. Oui au plan divin. Oui à ce qui est réel. Oui à Dieu et tout ce qui est. Oui à l'amour, sans opposer. Et on le dit ici sur Terre où il semble y avoir des milliards d'opposés partout. Non, non, c'est, tout ça c'est imaginé. Donc mon frère, ma sœur, n'est que la lumière. C'est ce que disait Jésus en disant « Vous êtes la lumière du monde ». Mais tout le monde l'est. Tout le monde l'est, parce qu'il n'y a que ça. Donc quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Évidemment, quand je suis guéri, c'est ma vision qui a changé. Et je vois que tout le monde est guéri, c'est-à-dire que personne n'a jamais été malade. D'ailleurs, le cours en miracle le dit, dans une autre leçon, « La maladie est une défense contre la vérité. » La maladie est une défense contre la vérité. Donc, quand je suis guéri, ma vision a changé et tout le monde est guéri avec moi, je le vois. Et tout le monde a toujours été guéri. C'est pour ça qu'on peut dire aussi que je m'éveille à la réalité. Et on parle d'éveil. Et en réalité, il n'y a pas d'éveil. Parce que quand on s'éveille à ce qui a toujours été là, ce qui est. Et donc tout le monde est éveillé. Tout le monde est le divin. Tout le monde est la lumière du monde. Tout le monde est la lumière du monde. Et c'est ça le vrai pardon dont parle le cours. Le mot pardon dans le cours en miracle est utilisé. C'est comme pour le Ho'oponopono. Et on s'aperçoit que ce n'est pas encore compris, ce fameux Ho'oponopono que beaucoup là, qui entendent cet enregistrement connaissent. Eh bien, souvent, ce n'est pas compris. C'est de voir vraiment qu'il n'y a rien à pardonner. Alors, on emploie le mot pardon, mais dans le mot pardon tel qu'il est utilisé dans le monde de l'ego, il y a supposition qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a une faute. Quelque chose qui est comme un péché, qui est comme quelque chose qui n'aurait pas dû être. Eh bien non, c'est pas ça le pardon. C'est il s'est rien passé parce qu'il n'y a que la lumière. Tout ça c'est imaginé. Donc c'est très fort, hein. C'est très très fort et très simple aussi. Maintenant nous, avec notre ouverture de cœur, nous commençons à comprendre que il y a en même temps cette notion que ça bouscule tout ce à quoi nous croyons, ça bouscule beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est très simple. D'ailleurs, le cours en miracle dit, qu'est-ce que ça va vous coûter, ça? Cette nouvelle vision. Eh bien, tout, ça va tout vous coûter. Mais vous allez vous apercevoir en éclatant de rire, mais vraiment en le vivant et en l'expérimentant, que ce coût n'existe pas et qu'il n'y a rien. Que vous croyez que vous aviez des problèmes, il n'y en avait pas. Et donc, ce qui va disparaître, c'est des fausses croyances. Vous allez pouvoir retrouver un bonheur incroyable, ici, sur Terre. C'est pas, peut-être pas pour ça que votre vie physique a beaucoup changé, mais la façon dont vous allez la vivre, dans la joie, dans le miracle, dans la guérison, dans l'harmonie, ça, ça a un sens, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce à quoi nous sommes en train de nous ouvrir, et comment est-ce que nous nous ouvrons? Eh bien, en le partageant, en, effectivement, l'accueillant pour nous-mêmes, et à ce moment-là, on s'aperçoit que les autres voient cette lumière, et ça reflète leur propre lumière, parce qu'ils sont la lumière. C'est pour ça qu'on nous dit, votre rôle, c'est de laisser briller votre lumière, pour que les autres voient cette lumière, et voient que cette lumière qu'ils voient à l'extérieur, en fait, est en eux. C'est un reflet de leur propre lumière, car ils sont cela. Nous sommes cela, nous sommes le divin, nous sommes qui nous sommes, comme disait Abby tout à l'heure. Et ça, nous ne pouvons pas ne pas être qui nous sommes. Nous sommes qui nous sommes, c'est éternel, c'est hors du temps et de l'espace. Et nous pouvons vivre dans un temps et un espace apparemment réel, je dis bien apparemment, parce que ce n'est pas réel, mais ça semble réel, ici sur cette planète, c'est ce qu'on appelle le ciel qui vient sur la terre. Et le courant miracle dit que le ciel qui vient sur la terre, eh bien, que le ciel et la terre vont passer, comme c'est dit dans l'Évangile, ça veut dire qu'ils cesseront d'exister en tant qu'État séparé. C'est-à-dire que c'est pas nier qu'on a l'impression d'être séparé, on a l'impression de vivre un corps physique, masculin ou féminin, mais maintenant la façon de le vivre est en train de changer totalement, et donc on a en même temps dans cette expérience humaine la conscience d'être le tout. C'est-à-dire qu'on va avec le flot des choses, on va dans la paix, on accueille les choses les unes après les autres et on ne s'y attache pas. On est comme dans une fluidité, et c'est le flot de l'amour, c'est le flot de l'accueil, c'est le flot du donner, le flot du donner-recevoir, c'est le flot de l'harmonie. Et ça, on en fait de plus en plus d'expérience. Donc ce que je viens de dire là, c'est comme un appel à dire oui, c'est ça que je veux expérimenter. Et ce oui est fondamental parce que nous sommes créateurs. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et donc ce dont on a besoin ici sur cette planète, c'est ce oui. Tout à l'heure, Avi disait que Dieu dit toujours oui. Eh bien oui, on dit oui. On dit oui au plan divin, on dit oui à la pièce de théâtre, on dit oui à l'amour entre nous. On dit oui au nouveau, on ne sait pas ce que c'est, mais comme un petit enfant joyeux qui a envie de quelque chose d'autre, de vraiment retrouver qui il est, on dit oui simplement, tout simplement.
Tu disais tout à l'heure qu'on était amené à guider vers la vérité. Et en fait, ce que je trouve étonnant et pas toujours facile, c'est que la vérité, elle n'est parfois pas celle qu'on croit. En tout cas, moi, c'est ça que je vis. Enfin, que la vérité de qui nous sommes, c'est pas forcément. Voilà, du coup, les repères, ils sont un peu floués. Et d'être la vérité de qui nous sommes, moi, j'ai l'impression de faire des pas au fur et à mesure sans savoir où je vais. Et d'être vraiment en permanence à demander d'être guidé jour après jour sans savoir. Vraiment, c'est comme si je suis sur un chemin de l'inconnu en permanence. Et voilà, quand je suis dans un certain état d'esprit, ça va. Puis quand je suis dans un autre, ça va moins bien. parce que je sais pas où je vais, parce que je sais pas toujours si les choix que je fais sont les choix complètement de qui je suis. Enfin voilà. Si je pense que j'étais en transition, du coup je suis beaucoup dans la question du choix, quoi, du choix en permanence, de quel choix je fais, est-ce que c'est le choix du cœur, est-ce que c'est le choix de l'âme, enfin, est-ce que c'est le choix de qui je suis vraiment dans ma vérité, enfin, dans qui je suis, dans qui je suis au fond. Ou est-ce que c'est, enfin, voilà. Voilà, j'essaie de me laisser guider, d'apprendre à me laisser guider au fur et à mesure, mais voilà, c'est... Bon.
Oui, tu décris exactement le processus dans lequel nous sommes tous. On ne choisit jamais seul, c'est-à-dire on choisit toujours avec un certain état d'esprit, c'est-à-dire... soit avec l'ego, soit avec la vision que tout est un. Et l'expérience qu'on a choisie, c'est l'ego. Et donc, il est parfaitement, entre guillemets, naturel. C'est pas naturel au vrai sens du mot, puisque l'ego n'existe pas. Mais dans cette expérience humaine, c'est parfaitement, entre guillemets, normal de choisir avec l'ego. Et on parle d'apprentissage. On est en apprentissage, le courant miracle en parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend peu à peu à choisir différemment. Et donc, quand tu dis que tu te demandes si tu choisis avec l'ego ou avec le cœur, etc., c'est tout à fait normal. Et donc, le pardon, ça consiste à accueillir son expérience humaine, à dire, bah oui, ok, j'ai choisi un ego. Bah, je choisis très souvent avec l'ego, avec peut-être ma colère, avec l'impression d'avoir des manques, des problèmes. Ok, je dis oui à ça. Et c'est ce oui qui transforme. Et donc, c'est l'esprit qui va me montrer. Et l'esprit te dit, mais regarde bien comme tu... Oui, tu regardes. Ah oui, tu choisis avec l'ego, là t'es en colère, bon, là t'as l'impression de manquer, de ne pas être aimé, hein, voilà. Et, ah oui, alors l'esprit te montre, c'est pour ça qu'on nous dit, vous êtes sur un chemin qui est parfaitement guidé par l'esprit, mais cette notion, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je prends ma décision avec le cœur ou pas, c'est pas le problème. C'est pour ça que le courant miracle nous dit, attention, on vous parle pas de réussir, on vous parle de bonne volonté. Alors, ok, je suis un ego énorme, évidemment j'ai choisi. Donc, ok, monstrueux, à des moments, je me prends, mais il y a d'ailleurs souvent des témoignages, soit soi-même, soit d'autres, qui disent, mais j'ai un ego immense, c'est incroyable. Mais oui, bien sûr. Et on rigole. Tout va bien. Et c'est ce fait de rire de cet ego qui transforme les choses. Et quand, par exemple, l'année dernière, avant que j'aille à Croydon Hall, au mois d'août, dans le Somerset en Angleterre, et Yeshua nous avait donné un message par rapport à la famille, etc., et par rapport aux peurs du monde. Et il nous dit, les peurs du monde sont transmutées quand vous riez, quand vous amusez, vous dansez, c'est-à-dire vous accueillez, quand vous les aimez. Donc on accueille tout l'ego, tout ça, pour soi-même et pour les autres. C'est vraiment cet accueil, c'est cet amour-là. Donc c'est par l'amour que les choses sont transcendées. Et merci pour ton intervention, Estelle, parce qu'effectivement, c'est une question que tout le monde se pose, y compris moi d'ailleurs, souvent, mais j'ai l'impression de ne pas y arriver, ou je me suis encore laissé piéger. Tiens, j'ai eu un petit truc là où j'ai voulu récupérer peut-être d'une manière personnelle telle chose. On éclate de rire, ben oui, bien sûr. Bien sûr, je suis venu pour ça. C'est comme si on plonge dans une mare pleine de boue, on dit mais j'ai de la boue partout. Hein? Bon, c'est une image, mais... et comment me voit l'esprit ? Mais l'esprit voit que la boue est inventée, puisqu'on a inventé la mare pleine de boue. On a inventé l'ego qui n'existe pas. C'est pour ça que ça commence à devenir important, cette notion de... On a deux émotions, l'amour et la peur. L'une qui nous est donnée par notre création, c'est l'amour, c'est qui nous sommes, c'est un amour infini, et il n'y a rien d'autre. Et puis la peur, c'est imaginer. Donc tout le reste, c'est imaginer. La séparation est imaginée. Mais elle est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, remarquablement imaginée. Alors, et c'est pour ça d'ailleurs qu'encore une fois, comme on dit souvent maintenant, cette planète bleue là, cette terre où on est, ça passionne l'univers. Parce que quelque part, ça s'était jamais produit à ce niveau-là. Sur des millénaires, bien sûr, sur une très longue période, mais cette plongée dans le noir, cette autorisation d'imaginer n'importe quoi, n'avait jamais été, disons, expérimentée à un tel degré, c'est ce qu'on nous dit. Et on dit que c'est tellement extraordinaire ce réveil que nous sommes en train de faire au milieu de cette noirceur, en apparence, hein, de ces ténèbres en apparence, parce qu'il n'y a pas de ténèbres, mais en réalité, on a fait exprès d'imaginer des ténèbres et des noirceurs, et une noirceur, eh bien on se réveille au milieu de ça. Et d'autres êtres, d'autres mondes beaucoup plus, disons, proches de la lumière, c'est une façon de parler, sont émerveillés de notre expérience. Et beaucoup veulent venir s'incarner maintenant, en disant, mais c'est incroyable de se réveiller au milieu de ça, mais c'est magnifique. et ça devient un jeu cosmique fantastique. C'est ça qui est en train de se passer. Et là, je parle sur une longue période, hein, mais vraiment, c'est pour ça qu'on nous dit, mais vous êtes des maîtres. Vous avez choisi un truc extraordinaire et on est venu s'incarner ici en pleine connaissance de cause. On est venu et on s'est incarné et réincarné, mais maintenant, enfin, on a un but différent. Parce qu'avant, on venait, on était de nouveau, on plongeait dans l'ego. Et alors, on faisait des vœux de pauvreté, de chasteté pour plaire à Dieu. Même des saints, des gens qui ont laissé une empreinte magnifique, eh bien, ils étaient quand même beaucoup dans la dualité, beaucoup plus que maintenant. Maintenant, on se réveille, c'est terminé. De pauvreté, de chasteté, d'aller faire des pèlerinages à genoux, de bien souffrir pour prouver à Dieu qu'on souffre et qu'on ne veut pas être puni, c'est terminé, on arrête ça. On passe à autre chose maintenant. On passe à l'émerveillement, à la joie, à la simplicité de l'amour, qui est la volonté de qui nous sommes, la volonté de Dieu, il n'y en a qu'une. C'est le bonheur, c'est la joie. Et ça devient concret. Mais évidemment, ce qui s'est passé dans le passé, même toutes ces inventions, toutes ces tortures, toutes ces structures qu'on a mises en place pour atteindre un Dieu extérieur, c'est en train de s'effondrer parce que ça s'effondre. Et on se réveille comme des petits enfants en se disant « Mais où est-ce qu'on a été ?» Il y a une rigolade. Et pourquoi ça s'effondre ? C'est parce que justement, on commence à vivre l'amour. C'est-à-dire à accueillir l'expérience humaine, à accueillir cette dualité qu'on a choisi de jouer ensemble et ne plus en se sentir coupable. C'est pour ça que dans beaucoup de thérapies, on fait des travaux sur l'accueil de l'incarnation. Souvent on dit, mais vous n'êtes pas incarné. Évidemment, personne n'est incarné ici. On ne veut pas, on a honte, parce qu'on est puissant. Donc si je n'accueille pas avec un amour total mon expérience duelle, eh bien, je ne suis pas dans l'amour. Bon, ce n'est pas grave, c'est fait exprès. Donc c'est formidable, ce paradoxe incroyable entre accueillir totalement l'incarnation, totalement la dualité, et c'est en rentrant dedans à fond, en l'aimant, en l'embrassant, en allant jusqu'au bout, qu'on en sort. Alors, c'est très concret. C'est très concret, c'est très très concret. C'est la clé que tout le monde cherche. Et on l'a cette clé, parce qu'on est la clé. On est la clé, puisqu'en fait, quelque part, il n'y a pas de prison. C'est imaginé. C'est imaginé où ? En nous, et pas ailleurs. Et donc, c'est à moi, toujours à moi, de choisir ce que je veux. Et je ne vais pas changer les autres. Alors on me dit, mais pourquoi tu es en train de parler là ? Je ne sais pas, parce que je suis chez Avi, que je vois te prendre le micro, mais je parle à moi-même. Comme dit le courant en miracle, n'oublie jamais que tu ne rencontres que toi-même, parce qu'il n'y a que toi-même. Mais évidemment, c'est un toi-même avec un T majuscule. Il n'y a que la non-dualité. Alors donc, tout ça, merci encore une fois de ton intervention, ça aide tout le monde, et ça nous aide à vraiment accueillir notre incarnation et notre dualité, à aimer notre dualité, et non plus à s'en sentir coupable.
Alors j'ai beaucoup d'idées qui m'arrivent dans la tête, là, ça se bouscule vraiment au portillon. Une des idées qui m'arrive dit, nous sommes venus nous incarner pour pouvoir rechoisir Dieu. C'est-à-dire que douter dans ce monde, c'est parfaitement normal, puisque nous sommes dans un monde de choix. Sachant que dans l'unité, il n'y a aucun choix. Dans l'unité, c'est l'amour tout le temps, sans opposé. Donc, il n'y a pas de matière à choisir. Alors que dans ce monde, nous posons des choix. Et chacune de nos expériences terrestres est là pour faire le choix de l'amour ou le choix de la peur. Être guidé par l'amour ou guidé par la peur. Et qu'est-ce que c'est que l'élévation spirituelle dans ce monde? Qu'est-ce que c'est que l'appel à s'éveiller? C'est de plus en plus choisir l'amour en chaque situation. Utiliser, mettre à profit chaque expérience, qu'elle soit minuscule ou très grande, pour rechoisir Dieu, c'est-à-dire réaffirmer notre nature profonde. Et qu'est-ce qui nous suggère que nous le faisons? C'est la joie qui naît en nous. C'est le sentiment de quelque chose de vibratoirement élevé, une félicité, un sens de connexion à tout, à toute l'humanité. Mais un des sentiments ou un des états les plus forts pour moi, c'est la joie. Quand je sais que quelque chose me rend joyeux, je sais en même temps qu'il est juste. Parce qu'à ce moment-là, j'ai choisi l'amour. Et que choisir l'amour, ça remplit ma mission sur Terre, qui est de choisir l'amour dans chaque situation. Alors, je sais que je fais des expériences. Je sais que j'ai fait des expériences sombres. Et toutes ces expériences sombres ont leur utilité, en ce sens que si j'en tire une insatisfaction, je me dis, tiens, j'aurais peut-être pu choisir quelque chose qui me rend heureux plutôt que ce qui me rend malheureux. Parce que je choisis avec l'inconscience. Et je choisirai avec l'inconscience autant que j'ai envie de perpétuer cette inconscience. Mais à un moment ou à un autre, et c'est ça, d'une certaine manière, le fait que certains disent « nous sommes des fêlés de la lumière » parce que nous laissons transparaître la lumière à travers nous. On a beau occulter la lumière par un voile d'obscurité, un voile épais, qui fait que nous semblons être dans une cave alors que nous sommes au beau milieu d'une lumière éternelle et magnifique, mais nous avons l'impression d'être à la cave. Donc chaque fois que je choisis l'amour, je choisis de faire briller un peu plus ma lumière. Je me rappelle que la lumière est ma maison, parce que dans la lumière, je me sens bien. Dans l'amour, je me sens bien. Et quand je me mets au service, je me sens bien aussi. Pourquoi je me sens bien en donnant à l'autre, à ce qui est apparemment extérieur? Parce que dans l'unité, l'autre, c'est moi. Et que je me donne à moi-même et que je me rappelle qui je suis. Et c'est à ça que sert l'incarnation et la séparation, c'est avoir des multiples facettes de moi en face de moi. Donc quand je me mets au service, je me mets au service de la lumière et de moi-même. Et je donne et je reçois en même temps. C'est pour ça que quand je pense à moi, quand je m'élève, eh bien j'agis pour ma lumière, et quand je pense à l'autre et que je donne de l'amour, j'agis aussi pour ma lumière. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans ces groupes de spiritualité, et puis aussi dans d'autres groupes qui sont axés sur le développement personnel? Le développement personnel, c'est pour moi un préalable à un rappel de notre nature. C'est une manière de dire, tu veux te réveiller? Tiens, c'est par là. C'est un fléchage, hein. C'est dans des termes qui sont acceptables pour ceux que la spiritualité effraie, parce que il y a de quoi être effrayé. Je sais de quoi je parle, hein, quand nous pensons à la spiritualité sans y être préparé. Alors quand je n'y suis pas préparé, pour moi tout ce qui existe, c'est mon corps, le corps des autres, le monde, le temps, l'espace, la terre, etc. Mais si d'un seul coup on me dit rien de tout ça n'existe, même pas ton corps. Waouh, c'est le plancher qui se dérobe sous mes pieds. Ça a de quoi être terrorisant, pas seulement effrayant. C'est pour ça qu'il y a des groupes de développement personnel. C'est pour ça qu'on fait du yoga, de la peinture, de la danse. Parce que dans ces groupes-là, il y a une élévation de nos vibrations qui est appelée. Et comme l'appel est en nous, si l'appel est proposé, il y a une part de nous qui dit oui. Parce que c'est ça que nous voulons, même inconsciemment, profondément. Parce que nous voyons le reflet de cet amour à l'extérieur. Et tout d'un coup, nous disons, ah ben oui, c'est ça que je veux. Bien sûr, bien sûr. On n'en est pas encore à l'étape de désidentification du corps. Parce que ça, c'est un gros paquet. C'est un gros paquet. C'est pour ça que je dis, la spiritualité, elle arrive lorsqu'il y a des étapes préalables qui ont été franchies. Lorsque je sais que c'est l'amour qui me rend heureux et c'est pas la haine. Et je commence à donner de l'importance à l'amour. Je commence à donner de l'importance à tout ce qui élève mes vibrations. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces groupes de spiritualité et de développement personnel? Eh bien, on ralentit notre rythme. Pourquoi on ralentit notre rythme? Parce que l'ego, qui est la croyance d'être séparé, qui est je suis une personne à part, a besoin de tenir notre mental occupé tout le temps par par un rythme rapide, pour pas que nous nous penchions vers la lumière. C'est voulu tout ça, hein. C'est ça le voile. D'une certaine manière, je fais ça, puis après je vais faire autre chose, et puis après je vais faire autre chose, et puis j'ai toujours quelque chose à faire, mais j'ai pas un moment, dans un premier temps, pour me poser et me dire, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Ça ne peut arriver que quand je fais une pause dans ma vie. Et je commence à faire des pauses quand je ralentis mon rythme. Parce qu'en vérité, l'amour est partout. L'amour est autour de moi. L'amour s'exprime en permanence. Mais parce que je suis agité dans ma structure cérébrale et mentale, dans mon ego, je n'entends pas ces messages qui sont subtils. C'est pour ça qu'on dit, si tu veux vraiment de l'aide, demande. Demande à l'esprit. Mais si tu demandes et que tu n'écoutes pas la réponse, bah, tu as l'impression que l'aide ne vient pas. Et pour écouter la réponse, il faut simplement déployer ses antennes et se mettre à l'écoute. Et la réponse, elle est subtile et elle vient dans le silence. Et c'est pour ça que dans ces groupes, bah, nous ralentissons notre rythme. C'est pour ça aussi que dans ces groupes, sous chaque phrase, nous répétons la même chose. C'est pour ça que c'est possible d'arriver même une demi-heure avant la fin, parce qu'on dit « Dieu est » tout le temps. On dit « Nous sommes un » tout le temps. Pourquoi on répète toujours la même chose sous des formes différentes? Parce que nous apprenons des répétitions. Les êtres de lumière qui nous guident, qui nous envoient des messages canalisés, nous disent « Vous avez besoin qu'on vous répète toujours la même chose ?» Parce que vous apprenez de la répétition. Mais on le répète en changeant les mots. C'est ce qu'on fait dans ces groupes. C'est de multiples rappels. Parce que derrière chaque phrase, il y a l'amour de qui nous sommes. Et l'amour, c'est tout ce qui est. Et l'amour, c'est Dieu est. Et l'amour, c'est il n'y a que Dieu. Et toute l'existence est une. Mais pour l'entendre, il y a besoin de ralentir un peu le rythme du mental. Et le rythme du mental est rapide seulement pour ne pas entendre la vérité. Et comme disait Sylvain, la maladie est une invention de l'ego pour ne pas entendre la vérité non plus. Ah, j'ai quelque chose qui va m'occuper un petit peu. Pourquoi j'ai mal à la gorge? Pourquoi j'ai le cancer? Voilà. Et donc, je suis préoccupé, mon mental tourne avec ça, et pendant ce temps-là, je ne me pose pas la vraie question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ce que je veux vraiment, ben, c'est être heureux. Il n'y a pas un seul humain qui ne désire pas être heureux, qui ne désire pas aimer vraiment, sans aucune condition, qui ne désire pas être aimé inconditionnellement. Mais qu'est-ce que je fais pour entendre que l'amour est partout, que l'amour, je suis un poisson qui est dans l'océan, et qui s'imagine être hors de l'océan. Donc l'ego, c'est une tentative de me faire oublier que je suis dans l'océan d'amour. Et je me rappelle, et je le dis de temps en temps, qu'il y a assez longtemps, avant même que la spiritualité commence à me toucher, avant même que le développement personnel commence à m'intéresser, je me disais, ben, je suis entouré d'amour. C'est, je suis dedans, il n'y a aucune manière d'être en dehors de ça. Mais simplement, est-ce que j'accepte de cette réalité-là? Est-ce que je donne une chance à cette opportunité-là d'être reçue par moi? Et c'était comme une intuition profonde. Aujourd'hui, je l'interprète comme émanant de mon être profond. Alors, tout ça, ça me dit quoi? Ça me dit que la vérité, nous l'avons en nous. Nous l'avons toujours eue, mais que par moment, nous faisons en sorte de la brouiller. Comme nous avons un poste de radio, mais nous mettons sur une chaîne qui n'est pas la chaîne de l'amour. Hein, nous essayons de changer le message. Et voilà, à un moment donné dans notre vie, nous disons, et si les choses étaient autrement, et nous commençons à changer de chaîne. Jusqu'à entendre ce message de l'amour qui ne peut être entendu que dans la paix. La paix, c'est l'endroit où je me pose. La paix, c'est l'endroit où je laisse une chance à autre chose d'être captée, c'est-à-dire à cette chaîne, cette fréquence universelle qu'est l'amour, de me toucher, où j'accepte de croire que autre chose que le corps puisse exister, que quelque chose de vaste puisse être à l'œuvre dans l'univers, qui est pour mon plus grand bien, dans quelque situation que je sois. Et le chemin vers cette paix, c'est le chemin humain de l'incarnation, qui à chaque moment, dans chaque situation, peut choisir l'amour et se rapprocher de la station de radio Amour infini. Hein, la fréquence, c'est infini. C'est même pas un nombre. Ou alors choisir, tiens, je vais continuer à brouiller encore un petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore fait assez d'expérience de non-amour. Je n'oublie pas que j'ai programmé une expérience humaine pour faire l'expérience de « Et que seraient les choses si je n'étais pas dans l'amour ? Que seraient les choses si elles n'étaient pas ce qu'elles sont de toute éternité ?» Donc, quelqu'un qui fait l'expérience de la peur, il veut faire l'expérience de la peur. Et il n'y a pas besoin de lui dire « Tu es tout amour !» Parce que d'abord, il n'entendra pas. Et ensuite, c'est son chemin de faire l'expérience de la peur. Pourquoi ? Parce que c'est en partant de la peur qui est une perspective sur l'amour que je peux regarder que l'amour, c'est la seule chose que je veux. Et si j'interviens et j'interfère en plein milieu en disant « Mais non, tu es tout amour », il y a de grandes chances que je me reçoive des claques ou des jugements ou une réactivité forte. Donc, je laisse les gens dans leur expérience. Tu veux choisir la guerre ? Choisis la guerre. Tu veux choisir le jugement ? Choisis le jugement. Un jour ou un autre, il y aura l'appel qui dira « C'est l'amour ta maison ». Et tu sauras que dans l'amour, ça vibre de manière joyeuse, et que dans l'ego et que dans la séparation, les vibrations sont basses, lourdes, et que c'est inconfortable. Mais pour ça, il y a besoin de ce déclic. Ce déclic qui dit « Oh !» Autant de temps passé dans ce voile, dans cette obscurité, ça y est, c'est terminé. Je veux autre chose. Maintenant, à partir de maintenant, je veux autre chose. Mais tant que ce déclic n'est pas arrivé, je choisis, je peux continuer à choisir la peur et ça n'a aucune importance. Même pour moi, qui choisit l'amour de plus en plus, de voir que d'autres choisissent la peur, ben je le vois avec amour. Je le vois comme ils ont besoin de faire cette expérience. C'est aussi utile. Cette expérience est utile. C'est comme un marchepied pour aller dans l'amour. C'est comme si de la peur à l'amour, ben, il fallait une marche. Il fallait plusieurs marches et que c'était pas possible de les gravir d'un seul coup et que moi quand je lui dis il n'y a que l'amour, j'essaye de lui faire franchir une centaine de marches d'un coup. Non, nous avons choisi une expérience qui apparemment est progressive et cette progressivité est voulue pour que nous bâtissions nous-mêmes le chemin du retour, parce que lorsque moi-même je suis depuis la cave la plus profonde, l'obscurité la plus noire. Alors, je dilue progressivement cette obscurité jusqu'à dire, ah oui, je vois le chemin de sortie, c'est là que je veux aller. Lorsque j'ai fait ça par moi-même, j'ai réalisé le but de l'incarnation. J'ai trouvé, je suis allé dans une chambre noire, j'ai fermé la porte derrière moi, je me suis égaré dans un labyrinthe, fait de multiples réactivités, haine, violence, guerre, mais j'ai trouvé le chemin du retour tout seul. Et chaque être humain, sous l'apparente multiplicité, fait le même travail de retour. Et donc, moi, je peux, à présent, avoir l'attitude que Dieu a, puisque je suis Dieu, hein, je le dis en toute humilité, mais c'est vrai pour chacun de nous. Tu veux la guerre, ben c'est ok, choisis la guerre. Jusqu'à ce que tu en aies assez de cette expérience, jusqu'à ce qu'une autre expérience soit désirée. Et le désir, lui, est divin. Le désir n'est pas de nous, le désir passe par nous. N'importe quel désir, qu'il soit sexuel ou le désir de vivre, de se lever le matin tout simplement, de mettre un pied hors du lit, c'est comme le désir de la rose de fleurir. Est-ce que la rose a la volonté de fleurir ? Non, c'est divin également. C'est ce qui amène la couleur à travers la tige et qui fait que la rose devient rose, disait Yeshua. Ces paroles résonnent énormément en moi. Et donc nous sommes une rose et à travers notre tige, eh bien, il y a le désir divin qui est d'aimer toute la création qui s'exprime. Et peu à peu, nous prenons des couleurs et nous rayonnons notre fragrance en tant que fleur divine. Mais la rose, bah d'abord, elle est dans le fumier, elle est dans la boue, elle est dans le lotus, puis qui est le symbole de l'illumination chez les bouddhistes, il puise ses racines dans la merde, hein, dans l'égout, dans la chose la plus noire et nauséabonde. Ça parle bien de notre chemin d'incarnation. Donc, ok pour le dégoût, ok pour la rancune, ok pour la guerre, ok pour les jugements, jusqu'à ce que, hein, et ce jusqu'à ce que ce déclic, il arrivera tôt ou tard. Parce qu'on ne peut pas l'oublier, il est en nous, et chaque expérience que je fais, même si je choisis les atrocités de la guerre, sert à mon retour vers l'amour. Donc, comme Dieu dit ok à tout, moi je regarde les expériences des autres, les autres ne sont pas prêts à entendre le message d'amour que j'ai à donner, et bien c'est ok. Je le donne, il n'est pas entendu, il n'est pas entendu. Je n'ai personne à convaincre. Je suis qui je suis, celui chez qui ça fait résonner la fibre d'amour qui ne peut pas être éteinte, la lumière qui est en lui ou en elle, eh bien, j'ai réalisé ma mission, celle d'étendre qui je suis. Et celui que ça ne fait pas vibrer, eh bien, il a un chemin qui passe par momentanément par du noir. Hein. Tout ça n'a pas d'importance, c'est un jeu. Et nous continuons à jouer tant que nous restons identifiés à ce petit moi. Et ce petit moi n'a pas d'importance. C'est aussi une pièce de théâtre, c'est aussi un jeu, c'est aussi je crois que je nais, je crois que je vis, je crois que je souffre, je crois que j'aime, je crois que je meurs. Et je crois que je recommence tout ça un certain nombre de fois dans le seul but de choisir de plus en plus des expériences d'amour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun choix possible, jusqu'à ce que l'évidence qu'il n'y a pas de choix s'impose à moi, que je suis dans l'amour sans aucun choix opposé à l'amour, s'impose à moi. Mais alors... Ce chemin passe par la désidentification du corps, qui est un outil de communication qui, lui aussi, sert à choisir la peur ou sert à choisir l'amour. Mais quand je choisis l'amour, de plus en plus, je peux constater que ma réalité, ma perception devient de plus en plus vaste, c'est-à-dire que je m'identifie de plus en plus au tout, à mes frères et sœurs sur Terre, et à l'amour d'une manière générale, et que le corps perd en importance, que la réalité n'est plus n'a plus l'importance de la réalité physique, mais c'est la réalité de l'amour qui commence à avoir de l'importance. Et c'est à ce moment-là que je peux lâcher un peu plus l'importance que je donne au corps. Si je dis à quelqu'un qui est dans le jugement, qui est dans l'expérience obscure, tu n'es pas le corps, mais c'est terrible, parce que pour lui ou pour elle, il n'y a rien d'autre. Donc, ça veut dire, tu n'es rien. Alors que, en vérité, je suis tout. C'est exactement le contraire. Mais ce n'est pas le moment de dire ça à cette personne. Alors, quand j'ai l'intuition que je suis tout, je peux lâcher le corps, le plancher ne se dérobe plus sous mes pieds pour la bonne et simple raison que je ne crois plus au plancher. Et le plancher, c'est mon ego. C'est ce qui fait que je crois être une structure qui est séparée des autres et que je crois que je ne suis que ça. Donc, ça passe par l'élargissement de ma perception. Mais cet élargissement, c'est donner de plus en plus de valeur et d'importance à la seule chose réelle, qui est l'amour. Mais ça se fait avec beaucoup de progressivité. Et on est accompagné par l'esprit qui est là tout le temps, l'amour qui est autour de nous. Si nous avons la bonne volonté de dire je veux bien être aidé sur le chemin du retour. Et cette bonne volonté, ça passe par ralentir le rythme, se mettre à l'écoute, déployer les antennes pour trouver la bonne fréquence. Celle qui représente, qui vibre avec mon intériorité, qui représente qui je suis vraiment. Lorsque j'ai trouvé la fréquence, c'est quasiment une guidance de tous les jours. J'ai trouvé la radio, et dans la radio, il y a la guidance. Fais ci plutôt que ça, sois ici plutôt que là, et tout ce que j'ai à faire, c'est dire oui. Oui à la guidance. Mais je peux pas suivre la guidance si je ne demande pas la guidance, c'est-à-dire si je ne me mets pas à l'écoute, et si je ne fais pas silence, ce qui passe par ralentir notre rythme. Et ce soir, et pour toi qui écoutes aussi cet enregistrement, c'est une invitation pour nous tous à nous mettre à l'écoute. C'est une invitation pour nous tous à ralentir le rythme, à écouter autre chose que la voix de l'ego. C'est pour ça que dans ces soirées, c'est pour ça que toi qui écoutes cet enregistrement, il y a ce sentiment d'être reliés les uns aux autres, qui est intemporel, qui peut émerger. Tout simplement parce que nous créons un cadre qui est favorable à être aidé, à être guidé, à être impulsé par ces vibrations d'amour. Parce que nous le voulons bien. Ralentir son rythme, c'est dire j'accepte qu'il puisse y avoir une autre voie que celle que je connais, et parce que je l'accepte, je la demande et je me mets à l'écoute de cette autre voie. Elle ne peut pas ne pas venir parce que c'est la seule voie qui est réelle. Dès que je dis oui, j'ai déclaré mon retour. Le chemin du retour à la maison. Et il ne pourra pas ne pas... L'aide ne pourra pas ne pas être fournie. puisque c'est moi qui me fournis de l'aide à moi-même. Donc demande et tu recevras. Hein. C'est le sens profond d'être guidé. J'ai parlé.
En fait, j'aimerais bien voir si c'était possible une précision. Parce que je trouve que des fois les choses sont assez subtiles. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que je peux me noyer dans là-dedans. Voilà, j'ai l'impression que dans certaines situations que je vis en ce moment, mais depuis un certain temps en fait, je suis amenée à poser des actes ou à dire des choses assez tranchées. Donc d'extérieur, on peut parfois considérer que c'est violent ou que c'est de la colère. Et effectivement, je peux me dire que c'est pas de l'amour, mais pour moi, mais pourtant, ce que je sens, c'est qu'en termes de guidance, enfin, ou alors je me plante complètement, peut-être, hein, j'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est mon âme qui me guide et c'est plus l'ego. C'est plus la peur, c'est pas une bataille de l'ego, mais c'est un peu comme, la phrase Jésus vomit les tièdes, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où voilà quoi, c'est il y a un besoin de radicalité qui peut comme ça paraître violent de l'extérieur, enfin voilà, ou même moi-même je peux avoir l'impression que c'est violent, et en même temps c'est mon âme et je ressens que c'est un acte d'amour, y compris pour les personnes qui peuvent penser que c'est de la violence, enfin voilà, et c'est un peu je suis un peu perturbée quand j'entends amour ou peur, parce que je sais pas encore, parce que justement mes repères ils sont vraiment floués, donc je sais pas, je crois que je suis vraiment un peu je suis vraiment entre deux là en ce moment, et dans l'escalier dont tu parles, je dois être entre les ténèbres et l'amour, et donc du coup je dois être avec deux, je sais pas, avec des repères différents, et je sais pas bien, je suis un peu perdue, enfin vraiment je me sens perdue dans ça. Si je peux avoir des précisions autour de ça, merci.
J'ai une petite remarque, réponse rapide à faire. Parfois, l'amour prend des chemins bien déguisés sur Terre. Il y a des maîtres zen qui mettent sans aucune raison valable, mettent une grande claque à leurs disciples. Ça peut paraître aussi très violent pour un maître zen, juste dans le but de surprendre leur mental et de les éveiller, qu'ils les prennent et qu'ils les balancent par la fenêtre, juste pour les surprendre et les éveiller. Et donc, aimer, ça ne veut pas seulement dire être gentil dans ce monde. Quand je dis aimer, c'est aider, en fait. L'aide peut prendre des voies très détournées. Et donc, je peux être guidé à faire des choses qui semblent violentes, mais qui, au final, vont aider quelqu'un.
Il semble, Estelle, que tu as donné déjà ta réponse, parce qu'il y a quelque chose de fort dans ce que tu as dit. Et cette force, qui va se traduire par apparemment une violence, en fait, c'est un appel à vraiment voir clairement, faire une tranchée, on va dire, entre la vérité et l'illusion. C'est le sens de l'épée de Michaël, etc. C'est le sens de la parabole du bon grain et de l'ivraie, enfin, toutes ces choses. Et donc, il y a un appel à être extrêmement précis, peu à peu, et à ne garder que la vérité et ne pas tenter de mélanger la vérité et l'illusion, parce que ça ne marche pas. C'est ce que fait l'ego qui a envie d'être heureux. Donc, l'ego a envie d'être heureux, et puis finalement la notion de Dieu, la notion d'amour infini, quelque part, dans sa dualité, ça l'attire. Mais en fait, comme il est basé sur le mensonge que la séparation est réelle, ça ne marche jamais. Et donc l'ego s'illusionne. Alors on passe son temps à essayer d'arranger le monde. On va se réincarner pour de nouveau encore faire des nouvelles structures, des nouveaux régimes politiques, des nouvelles façons d'être en famille, etc. Et ça ne marche jamais parce que c'est bâti sur l'illusion. Comme nous sommes créateurs, l'ego, sans s'en rendre compte, fait toujours davantage de séparation. C'est ce que dit le cours en miracle, où Jésus qui dit, vous tentez pour faire le ciel, c'est-à-dire pour faire un état paradisiaque, un état de bonheur, bien, vous ne cessez d'utiliser des moyens qui font l'enfer. Vous ne cessez d'utiliser des moyens qui font l'enfer. Parce que vous êtes créateur, donc vous ne vous rendez pas compte, vous n'en avez pas conscience, que vous refaites toujours davantage de séparation, donc vous recréez une illusion de vulnérabilité, de danger, de souffrance, de vieillissement, de maladie, etc. Donc il y a un appel à être clair de plus en plus et à vraiment choisir la vérité. Et donc ça peut se traduire par certaines violences, par certaines choses, et à ce moment-là on est guidé. Alors ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, parce que l'ego est malin, il va encore récupérer ça pour dire « Ah ben on doit à ce moment-là, à des moments, donner des coups ». Non, quand Jésus a chassé les voleurs du temple, parce que souvent c'est récupéré par des personnes qui disent, vous voyez, il avait raison d'aller renverser les tables et d'aller leur crier des invectives en disant, vous êtes tous une bande de voleurs. Non, Jésus, c'était pas facile, il a travaillé là-dessus. Il s'est dit, comme toi, Estelle, il s'est dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et donc il a travaillé sur lui-même, sur le pardon, c'est se dire, ben, j'ai fait ça parce que j'ai fait ça. Et il a aussi pu se dire, ben, j'ai fait ça parce qu'en fait c'est important. Et ça l'aide lui-même, parce qu'on ne travaille que sur soi-même. Donc, que ce soit Jésus, toi ou n'importe qui, il y a un travail sur soi-même, et c'est que là que ça se passe. C'est vraiment que là que ça se passe. Et quand on s'incarne, quel que soit l'être qui s'incarne, il choisit l'ego. Et donc, il y a un travail qui se passe pour choisir progressivement la vérité et non plus l'ego. Mais ça prend du temps. Et c'est le seul travail qui a un sens. C'est pour ça que le cours en miracle dit, par exemple, la seule chose que tu as à faire, c'est accepter le fait que tout est un pour toi-même. C'est traduit par le mot, en anglais, c'est atonement, qui a été traduit par expiation, et qui n'a rien à voir avec le mot habituel, expiation. L'expiation, qui a été le mot choisi pour la traduction officielle du cours en miracle, ça veut dire la vision que tout est un, et que tout a toujours été un. Et donc la chose qu'on est à faire, c'est à l'accepter pour soi-même, et rien d'autre. Et à ce moment-là, merci pour ce que tu nous partages, parce que cette violence, en fait, c'est comme une impulsion de l'âme pour dire, attention, soyons vigilants, il n'y a que la réalité qui existe et l'illusion est illusion. Je ne peux pas mélanger les deux. Pourquoi? C'est pas que c'est mal, il n'y a pas de péché, il n'y a pas... Mais parce que ça ne fonctionne pas. Et parce que je vais m'attirer ce que je ne veux pas, c'est-à-dire de la souffrance. Et je n'ai pas envie de souffrir, personne n'a envie de souffrir. C'est ce que disent les orientaux, ce que disaient les bouddhistes et autres, la vie est souffrance. Mais c'est la vie perçue par l'ego. C'est la vie qui considère qu'on a des problèmes, etc. Et ça, c'est souffrance. Donc il y a une exigence fulgurante à dire, arrêtons, choisissons la vérité, choisissons l'amour. Et quand je dis choisissons l'amour, je choisis l'amour, mais je n'ai pas à réussir, parce que je dis, bon d'accord, je choisis l'amour, mais en attendant, j'ai mes peurs, j'ai ma vision de séparation. Effectivement. Donc je ne peux pas maîtriser le chemin. Je peux simplement m'ouvrir à avoir une vision changée. Et à ce moment-là, le divin que je suis, l'amour lui-même, va progressivement se révéler à sa façon à lui.
c'est ce que le cours appelle le Saint-Esprit. Je demande au Saint-Esprit, dit le cours en miracle, de changer ma perception des choses. Mais de moi-même, je ne sais pas le faire, parce que je me suis piégé dans cette illusion de séparation. Et donc, avec la vision que j'ai, c'est-à-dire que la séparation est vraiment réelle, je ne peux pas m'en sortir. De l'intérieur du système de pensée de l'ego, qui est basé, fondé sur la séparation, qui est au départ le fondement de notre incarnation humaine, nous ne pouvons pas nous en sortir. Avec cette vision, bien sûr, le grand éclat de rire, c'est qu'il n'y a pas à s'en sortir, puisqu'en fait, tout ça est irréel. C'est pour ça que cette notion que le monde n'est pas réel, tout à l'heure, Avile l'évoquait, en disant qu'on peut, souvent quand on dit aux gens, mais le monde n'est pas réel, ça paraît complètement absurde. Mais peu à peu, ça va devenir quelque chose, progressivement d'ailleurs, quelque chose de très important. Ah oui, mais si vraiment c'est pas réel, alors j'ai une vision fausse. Mais comme j'ai choisi ce monde pas réel, je peux pas m'en sortir seul. Et en fait, je suis pas seul, puisque je vais demander à qui ? Mais à quelque chose qui semble être autre chose, mais en fait, c'est moi-même. Tout à l'heure, Avide parlait en disant, mais je ne me demande qu'à moi-même. J'apporte de l'aide qu'à moi-même. Temporairement, comme j'ai une vision de séparation, je vais utiliser l'illusion de demander à quelqu'un d'autre que moi-même de l'aide. Je vais utiliser l'illusion de dire, ok, Saint-Esprit ou Dieu, aide-moi. Mais en réalité, je demande, c'est Dieu qui parle à lui-même. Tout ça, c'est des mots, d'accord, mais chacun, justement, on parlait tout à l'heure de silence, chacun tout d'un coup dit, mais ok, qu'est-ce qui me parle ? Et cette notion de Dieu est tout ce qui est, mais c'est fondamental. Et souvent, c'est est-ce que c'est vrai ou pas ? Je veux dire, souvent, on met tout sur la table, on dit, ok, bon, tous ces concepts de dualité, non-dualité, d'accord, mais est-ce que c'est vrai que Dieu est tout ce qui est ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Est-ce que la vie est vie ? Est-ce qu'il y a autre chose que la vie ? Ce qui est, ce qui est éternel, est-ce qu'il y a autre chose ? La réponse est au-delà des mots. La réponse, c'est une révélation qui est, en fait, dans un temps illusoire, progressive. Et la révélation, c'est nous-mêmes qui nous révélons à nous-mêmes, c'est-à-dire le divin qui se révèle à lui-même. C'est des mots, bien sûr, c'est des mots duels, c'est des mots qui sont empruntés au monde de la séparation. Donc c'est des mots terrestres. Et tous les mots, tous les propos que nous tenons, ce sont des propos terrestres, ce sont des propos duels. Même le mot Dieu est un mot duel. Autant le regarder en face. Ok, ça va, c'est bon. Et la grande éclat de rire, c'est qu'avec ces mots duels, avec tout ça, on parle de non-dualité. Donc avec des mots finis, avec une finitude, on parle de l'infini. Parce que qui en est, c'est infini. Qui Dieu est, c'est infini. Donc c'est pas avec des mots finis qu'on peut en parler. Et on comprend pourquoi au départ, après ça c'est devenu un péché, mais au départ, dans l'islam par exemple, on disait on ne peut pas représenter Dieu. Évidemment c'est infini. Après ça, ça a été traduit par « c'est défendu », donc c'est un péché. Mais au départ, c'est simplement c'est une évidence. On ne peut pas le représenter. C'est comme qui on est, c'est infini, on ne peut jamais le saisir. Mais notre cœur peut le vivre. On peut vivre simplement la joie, le bonheur, c'est tout. Et quand on est dans le bonheur et dans la joie, eh bien voilà, il n'y a pas de question. Il y a la fête, c'est la fête. C'est pour ça que... Si on commence à se dire, mais est-ce que si vraiment c'est possible, si vraiment c'est vrai que Dieu est tout ce qui est, bien à ce moment-là, je vais le vivre. Et comment est-ce que je peux savoir ? Mais en le vivant, tiens. Et donc, je prends le risque de l'amour. Je prends le risque de m'ouvrir. Et en même temps, j'ai pas envie. Oui, j'observe que j'ai pas envie. C'est pour ça qu'on va dire, on observe des ouvertures de cœur suivies de fermetures répétées. Évidemment, parce que je veux m'ouvrir, mais en même temps, j'ai peur. Donc, je m'ouvre, Et puis je veux pas. Je veux une relation. J'ai envie de tomber amoureux. J'ai envie d'un compagnon, d'une compagne, par exemple. Ça peut aussi être autre chose. J'ai envie de faire un sens. J'ai envie d'avoir une maison ouverte. J'ai envie de vivre des choses, de donner beaucoup. Très bien. Puis en même temps, je vais me faire bouffer. On va me prendre mon argent. On va me prendre. Et puis l'autre va finalement, si je m'ouvre trop, il va empiéter. Donc j'ai peur. Donc à chaque fois, j'ai envie de m'ouvrir, mais j'ai peur de m'ouvrir. Donc il y a un apprentissage où peu à peu, on fait des expériences et on dit c'est curieux, mais plus je m'ouvre, mieux je me sens. Mais ça peut-être prendre du temps. mais c'est mon expérience qui me montre que ça a un sens. Et le courant miracle, par exemple, dans le livre d'exercice où il propose chaque jour une leçon, 365 leçons, une pour chaque jour, avec un concept à pratiquer dans la journée, il dit bien au départ, ces concepts-là peuvent vous paraître difficiles au départ. Simplement, c'est la pratique, la mise en pratique qui va vous montrer que ça a un sens. Donc il y a vraiment une ouverture à laisser l'esprit nous guider pas à pas dans notre quotidien, là où nous sommes, dans notre chemin tout à fait particulier, un chemin hautement individualisé. Chacun a un chemin tout à fait particulier. Et quand on commence à comprendre ça, évidemment, je comprends que mes compagnons, mes frères et sœurs, ceux qui sont autour de moi, mes proches ou des moins proches, et puis peu à peu les 7 milliards que nous sommes, chacun est parfaitement guidé, pas à pas, dans un chemin, un programme, ce que le cours en miracle appelle un curriculum, un programme qui est initié par l'esprit. Mais ce n'est pas l'ego qui choisit le programme, ce qui implique en clair que tous les événements sont programmés par l'esprit. Et ce n'est pas nous qui fabriquons ces événements. Ces événements nous sont donnés, c'est notre expérience quotidienne, où, d'ailleurs c'est incroyablement magnifique, où la liberté de chacun est respectée et en même temps, tout est conduit par l'esprit. Donc il y a un paradoxe avec une liberté absolue et en même temps une guidance absolue. Et nous sommes là. Et donc peu à peu on commence à le comprendre. Et peu à peu, progressivement, nous choisissons toujours la même chose. Un maître choisit toujours la même chose. Il choisit l'amour, c'est-à-dire l'accueil de l'instant présent. Et il ne cherche à changer rien du tout. Et même un maître zen qui va, comme disait Avi tout à l'heure, éventuellement donner une claque dans le dos de ses disciples, il le fait dans l'instant parce qu'il le sent. Mais profondément, si c'est un vrai maître, il sait qu'il n'a rien à changer et qu'il n'a pas à changer ses apparents élèves. C'est quelque chose qui se passe. Il observe son propre rôle, c'est tout. C'est pour ça qu'on parle d'être l'observateur simplement de ce qui se passe. Comme un enfant. L'enfant, il observe, c'est tout. Il ne prétend pas savoir. Il ne prétend rien changer. Il veut jouer, c'est tout. Et il n'a aucun concept, aucun jugement sur rien. En revanche, il a envie de jouer, il a envie d'être heureux. Et voilà, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on accueille, cette envie d'aimer, envie de partager, de donner, de recevoir, de nous étreindre les uns les autres, de vivre ensemble, de danser ensemble, de communiquer, de communier, de nous fondre, de retrouver qui nous sommes ensemble. Et c'est ça le défi incroyable de cette incarnation terrestre, et nous sommes arrivés au final, nous sommes arrivés au réveil, c'est-à-dire en clair au vécu de cette unité là, dans ce monde apparemment duel. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le ciel qui descend sur la terre. Et ces deux états, le ciel et la terre, cessent d'être perçus comme des états séparés. On peut dire aussi c'est l'avènement de la Nouvelle Jérusalem, tout ça c'est des symboles. Mais c'est un vécu d'harmonie, un vécu de joie, un vécu de jeu, d'amusement, un vécu de plénitude, du bien sans opposé, là, ici, sur Terre. C'est très concret. C'est ce que tout le monde cherche. Mais c'est ce qui est en train d'arriver d'une manière concrète, d'une manière expérimentée.
Alors, je pense à Betty la Grande Joie. C'est une personne qui s'est carrément désidentifiée de son ego. Et j'aime beaucoup ces trois mots, la grande joie, pour décrire l'état, le nom qu'elle se donne après s'être désidentifiée de l'ego. Et c'est un phénomène qui se multiplie en ce moment sur Terre, où des personnes se réveillent et arrêtent de se prendre pour le corps, ou pour, même pour le corps émotionnel aussi. Elle ne dit plus « je suis joyeuse », elle dit « il y a l'expérience de la joie, il y a l'expérience du bonheur, il y a l'expérience... » Des choses arrivent, mais ne m'arrivent pas à moi. Je suis dans un flux, hein, dans un flux, je constate le flux. Et la grande joie, c'est parlant pour moi de l'état, c'est vraiment la félicité, l'état de notre nature lorsque notre mental est déconditionné, lorsque notre ego cesse d'avoir prise sur nos actes et notre vie humaine. Pour des personnes qui ne connaissent pas le monde plus vaste de l'esprit ou n'ont pas cette intuition en eux, ça peut paraître très effrayant de dire il y a l'amour et rien d'autre, donc il n'y a aucun changement dans l'unité, il n'y a pas de variation, c'est l'amour en permanence tout le temps. Pour certains, ça peut, et du point de vue de l'ego, ça peut sembler ennuyeux qu'il n'y ait pas de variation, et pourtant la grande joie, hein, je me rappelle d'avoir lu une canalisation d'êtres de lumière qui disait « Vous ne pouvez pas imaginer la félicité dans votre monde. Vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est très difficile de vous la décrire, mais si on essayait un petit peu avec vos mots, eh bien on vous dirait que c'est comme un orgasme humain multiplié par 100 et en permanence. » Déjà, ça fait rêver. Mais voilà, c'est comme décrire l'infini avec les mots finis. C'est un combat, c'est une tentative qui ne peut pas se faire. Donc Betty la Grande Joie, c'est le résultat d'une désidentification qui vient soit brusquement, soit progressivement, pour ceux qui s'éveillent progressivement. Quand le mental se déconditionne à un croire limité, il y a cette sensation de joie énorme qui est là. Il y a même ce pressentiment de joie énorme chez beaucoup d'entre nous qui sont sur le chemin de la spiritualité, qui est une intuition vraie. Une intuition qui parle de vérité. Hein. S'il y a l'amour sans opposé, ça ne peut s'accompagner que d'une joie énorme, et d'une joie, d'une fréquence. Quelqu'un aussi disait que l'amour est la plus haute fréquence dans l'univers, l'amour vrai. Et que nous ne pouvons pas accueillir l'amour universel dans notre corps parce que notre corps exploserait. C'est une fréquence telle que les êtres de lumière qui s'incarnent, ou Jésus quand il a choisi de prendre un corps, alors il a dû abaisser sa fréquence. Et il y a le témoignage que c'est extrêmement inconfortable, voire douloureux pour eux d'abaisser leur fréquence jusqu'à pouvoir... réduire la fréquence de l'amour pour que l'amour tienne dans un corps sans le détruire. C'est étonnant, hein, tout ça. Ça donne un pressentiment de l'immensité de cette fréquence, de cette vibration qui est la plus haute possible dans l'univers et qui est notre maison, notre nature, et dont nous avons un vague reflet en tant qu'humains quand nous aimons avec le cœur, quand nous aimons vraiment, hein, quand nous aimons en laissant l'autre libre. Parce que l'amour inconditionnel ne pose pas de conditions par nature. Donc je t'aime vraiment, si tu fais ci, c'est ok, et tu fais ça, c'est ok aussi. Je suis Dieu quand je dis ok aux deux possibilités, aux trois ou aux cent. Tu vas choisir ce que tu veux, et si je t'aime vraiment, je dirai toujours oui. Va faire ton expérience. Et en vérité, toutes les expériences sont utiles, et nous sommes venus seulement pour faire des expériences. L'expérience numéro un, c'est celle du non-amour, qui se décline en une multitude d'expériences. Et j'ai envie de relativiser lorsque nous disons « ce monde est une illusion, le corps est une illusion, l'espace est une illusion ». Le temps est une illusion, donc tout ça n'existe pas, est imaginé. Ça ne veut jamais dire que ce n'est pas utile, ce qu'on fait. Donc nous avons créé des outils illusoires. Illusoires, ça veut dire simplement que dans l'unité, ils n'existent pas. Ils sont rêvés. Nous avons créé des outils illusoires qui nous servent à choisir l'amour. Le corps est un outil qui peut poser des actes d'amour ou des actes de peur. Dans chaque situation où j'ai un choix, la situation en elle-même, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle me sert de support pour dire oui à l'amour ou oui à la peur. Donc en soi, elle est neutre. Pour certains, c'est difficile à comprendre. Le corps aussi est neutre. Le corps n'a pas de valeur propre, c'est pas ce que fait le corps, mais comment il le fait. En vérité, le corps, c'est l'outil avec lequel je fais des choix. Donc le corps en lui-même n'a pas de valeur propre, il est neutre. Je peux faire des choix très élevés avec mon corps, et je peux faire des choix très très bas vibratoirement avec mon corps. Donc le corps n'a pas de valeur réelle, mais il a une utilité immense. Hein, c'est important d'appuyer ça pour moi, maintenant. Le monde, la terre, la nature, tout ce qui compose l'univers, les planètes, les soleils, sont neutres, absolument neutres, mais très utiles, parce qu'ils nous permettent de faire des choix. Le temps me permet de faire des choix. Parce que dans le temps, les événements sont en apparence séparés les uns des autres. Alors que dans l'unité, il n'y a pas de temps et que tout se passe dans l'éternel maintenant. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, mais il y a le maintenant. Et le maintenant, ce n'est pas le temps. Le maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment précis. Et puis, la seconde d'après, si on peut dire, puisqu'il n'y a pas de seconde, c'est aussi l'instant éternel. Sauf que celle d'avant, si on peut dire avant, n'est plus. Elle a complètement cessé d'être. Il n'y a pas ce maintien dans le mental de ce qui a été. Il n'y a pas cette anticipation dans le mental de qu'est-ce que je voudrais qu'il soit. Donc, comme nous créons le temps, nous fabriquons le temps avec notre mental, eh bien, nous utilisons le temps, par exemple, pour séparer l'effet d'une intention de sa cause. Hein, j'ai une pensée, une intention, et puis, une semaine plus tard, un mois plus tard, 10 ans plus tard, il y a eu un effet. Parce que je suis créateur, donc tout ce que je pense a un effet. Mais dans le temps, nous avons créé le temps, fabriqué le temps, pour oublier que nous sommes créateurs et que les intentions ont des résultats. Parce que nous les séparons avec du temps apparent. Mais l'unité, ou même chez les êtres de lumière qui ne vivent pas dans la dualité, eh bien, intention et effet sont immédiats, sont ensemble. Il n'y a pas, dès que je pense, d'ailleurs ceux qui vivent des NDE nous relatent ça, hein, Dès que je pense à quelqu'un, immédiatement je suis projeté en face de lui. Immédiatement. Pensée et fait sont non séparés. Et donc le temps est une partie du voile de séparation qui fait que je crois que mes pensées n'ont pas d'effet, parce que l'effet est tellement séparé que j'oublie que j'ai eu cette pensée. Et l'espace non plus n'existe pas dans l'unité. Dieu est omniprésent, omnipotent, et il est, si on peut dire pour nous, partout en même temps. Il n'y a pas de Dieu, d'endroit où Dieu n'est pas. Osho disait cette belle phrase, il disait « Soit tout l'univers est sacré, soit il n'y a rien de sacré. S'il y a un seul atome qui est sacré, c'est-à-dire qui inclut Dieu, alors tous les atomes de tout l'univers sont sacrés. » C'est une façon de parler, hein. C'est tout ou rien, hein, dans ce domaine-là. C'est toute la réalité ou toute l'illusion, hein. C'est à peu de choses près ce que moi je comprends. Quand je dis oui à la réalité, c'est pas la moitié de la réalité, c'est pas les trois quarts, c'est 100%. C'est l'unité complètement. C'est pour ça que l'ego et l'esprit de notre vraie nature sont des ensembles qui ne se recoupent absolument pas. Qui sont disjoints en totalité. Soit j'ai une pensée de peur et je suis dans l'illusion, soit j'ai une pensée de véritable amour et je suis dans cette unité-là, à ce moment-là. Mais c'est pas possible d'avoir un pied dans les deux mondes, c'est vraiment impossible. Soit c'est sacré, soit c'est pas sacré. Soit je rêve, soit je suis réveillé. Hein? Bien sûr, nous faisons des expériences de mettre un pied dans un monde, de mettre un pied dans un autre monde et de penser qu'ils sont mélangés. Mais en vérité, ils sont complètement disjoints. Complètement. Et je suis aussi guidé, même si d'habitude je le fais en début de groupe, à donner une forme de synthèse de la non-dualité, des enseignements non-duels, en particulier un cours en miracle, mais ce n'est pas restrictif, un cours en miracle, qui parle de l'utilité de cet outil qui aussi est illusoire. Puisque un outil qui vise à nous ramener dans la lumière et dans l'amour est illusoire si nous sommes déjà dans l'amour. Il ne sert à rien. Mais dans notre expérience, dans notre rêve, nous créons aussi des outils illusoires pour sortir de l'illusion. C'est ça la beauté de l'illusion. C'est que dans l'illusion, nous créons des choses fictives, comme les mots sont illusoires, mais avec les mots, nous pouvons raisonner à l'amour. Et l'amour n'est absolument pas illusoire. Et donc nous fabriquons des ponts, hein, entre les mondes. Alors, c'est tiré d'un très beau livre qui est facile d'accès, qui parle d'un cours en miracle, par Ken Wapnick et sa femme Gloria, qui ont été très actifs au début d'un cours en miracle, vers la fin des années 60, et qui s'appelle simplement « Questions et réponses sur un cours en miracle ». En quelques phrases, je trouve qu'il dit beaucoup de choses, beaucoup d'idées essentielles. Et dans l'essentiel, il y a notre essence. Il dit « Un cours en miracle nous propose une nouvelle façon d'être dans ce monde de rêve qui va bien au-delà de toutes les morales et règles de conduite auxquelles le monde rend hommage. Cette nouvelle façon d'être nous demande de devenir conscients des pensées de notre esprit faux, puis de demander de l'aide pour passer à la correction qui se trouve déjà dans notre esprit juste. Afin d'accomplir cela, nous devons mettre de côté notre ego et lâcher prise de tout désir, valeur morale ou investissement en un quelconque résultat qui touche la conduite, les règles ou les attentes. Voilà, c'est ça mériterait d'être relu et relu et relu. Ça parle beaucoup de la division de notre esprit, nous avons apparemment divisé notre esprit en une partie fausse, qui croit que la séparation peut se produire, et le fait d'y croire suffisamment fort fait que je la vis, puisque je vis cette croyance, je la matérialise littéralement, et une partie esprit juste, que le cours appelle le Saint-Esprit, le Saint dans le sens pur, vrai hein, aussi. Et dans l'esprit juste, dans l'esprit pur, la vérité est toujours là, et je peux faire appel à cette partie de moi qui ne me quitte jamais. Et dans l'esprit faux, bah, c'est la croyance que il n'y a pas d'amour et que l'unité n'existe pas. Et c'est important de se rappeler que j'ai voulu ça, que c'est une expérience que j'ai souhaité tenter, et que cette expérience se terminera forcément, puisque dans la vérité de ce qui est, elle est déjà terminée. Pourquoi elle est déjà terminée ? Parce que ça ne s'est jamais produit. La séparation ne peut pas se produire puisque c'est un rêve. Puisque l'unité est inébranlable. Il n'y a pas de possibilité que Dieu ne soit pas tout ce qui est. Sauf que nous avons voulu jouer à une blague cosmique et rêver d'autre chose. C'est pour ça que ça peut devenir... que l'illusion peut prendre fin quand j'accepte de rire de tout ce qui s'est passé. De rire à la pensée qu'il peut y avoir autre chose que l'amour, de rire de l'ego qui se croit souverain dans mon corps et qui croit qu'il peut être calife à la place du calife hein, pour prendre la place de Dieu. Et puis quand je vois ces tentatives désespérées pour fabriquer un bonheur qui... toujours illusoire, qui est toujours très bref et qui me ramène toujours à des choses temporaires ou difficiles, là je peux commencer à avoir un peu d'humour avec l'ego. Et en vérité, je suis sauvé quand je commence à rire. Et rire, c'est le début de la désidentification de l'ego. Parce que comme c'est une blague, elle ne demande qu'une chose, c'est que j'en ris. Quand j'en ris, c'est que je ne la prends pas au sérieux. Et quand je ne prends pas l'idée de séparation au sérieux, j'arrête d'entretenir une croyance forte, puisque j'accepte de considérer que c'est juste une expérience rigolote que j'ai voulu, en tant qu'être divin, tenter, jouer, que c'est une pièce de théâtre qui va bientôt se terminer, parce que... la pièce a un premier acte, un second acte, et puis un acte final, et le rideau aussi peut se baisser sur cette pièce de théâtre. Et de mon ressenti, nous sommes proches de l'acte final. Actuellement, c'est ce qui génère l'accélération du temps et le ressenti que les vibrations s'accélèrent. Quand les vibrations s'accélèrent, ce qui est lourd est très difficile à vivre. C'est pour ça que beaucoup de gens nettoient des choses difficiles en ce moment. Et ce qui est léger, ce qui vibre fort, c'est-à-dire l'amour, est de plus en plus désiré. Hein, c'est pour ça qu'il y a l'appel qui est ressenti par de plus en plus de gens à vibrer intensément et à aimer de plus en plus et à larguer le passé et puis les choses lourdes. Donc c'est ça l'acte final. L'acte final... c'est le temps s'accélère jusqu'à aller dans le non-temps, puisque le point final de l'accélération, c'est que le temps se résume au seul point qui sépare le passé du futur, c'est-à-dire l'instant présent. Le point qui est, au sens des mathématiques, une entité infinie. Hein, le point n'a pas de début et n'a pas de fin, hein, le point est infini. Et l'instant présent aussi est éternel, il est infini. Et puis, cette montée des vibrations nous invite à... Nous ne pouvons pas faire vibrer le plomb, nous ne pouvons pas faire vibrer la colère ou la rancune ou les choses lourdes. Donc, ça devient douloureux quand nous essayons de le faire. Et une propension naturelle, c'est de transmuter ça, comme nous transmutons le plomb en or ou les ténèbres en lumière. Donc, tout ce qui est lourd, tout ce qui m'encombre, naturellement, veut être transmuté. Il y a un appel pressant à transformer ça en amour. Comment transformer ça en amour? Changer ma vision à propos de ça, en reconnaissant que c'est juste une expérience, que je peux aimer l'expérience de la colère, que je peux aimer l'expérience du jugement. Je l'ai voulu, je l'ai souhaité, je l'ai vécu, et ben c'est bon, maintenant je passe à autre chose. Mais je peux aimer l'expérience pour ce qu'elle est, ce qu'elle m'a appris. Et elle m'a appris à faire la distinction entre la peur et l'amour. Et à savoir qu'il y a une seule des deux choses que je veux. Et donc c'est ni bien ni mal, la colère. Il n'y a personne qui est vraiment en colère dans le monde de l'unité. La mort n'est ni bien ni mal. Le crime n'est ni bien ni mal. Le génocide n'est ni bien ni mal, parce qu'en vérité, personne ne meurt. Il n'y a que la source qui s'amuse avec elle-même en s'imaginant des choses. Il n'y a que des circonvolutions d'énergie qui imaginent que des scénarios se passent. Mais en réalité, on peut rire quand on voit qu'il n'y a aucune réalité à tout ce que nous trouvons grave et sérieux. Voilà. Mais c'est un chemin, hein. C'est un chemin de se désidentifier. La peur la plus grande chez la majorité des humains, c'est la peur de mourir. C'est parce que l'ego est à ce point identifié au corps que s'il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de corps et il n'y a plus rien qui existe. Mais dès que le sentiment de vastitude arrive, alors à ce moment-là, le fait de lâcher cette croyance qui nous lie au corps et à cette vie humaine commence à être réellement accessible, parce que nous entrevoyons cette grande joie, comme disait Betty, et cette félicité. Nous entrevoyons qu'elle est tout, et que l'ego, le corps ou la mort n'est rien. C'est juste une façon d'expérimenter la volonté que nous avons eue de jouer. Voilà, je sens de clôturer ce groupe maintenant, si ça va à tout le monde, juste avec quelques minutes d'avance. Mais je sens de le clôturer d'une manière spéciale, qui est une phrase que je tire d'un recueil de textes venu d'une autre civilisation qui s'appelle... les humites, les habitants extraterrestres de la planète Humo. Et il y a beaucoup de littérature là-dessus sur Internet. Ça résonne extrêmement fort en moi. U2MO. Il y a aussi des enregistrements audio qui parlent de ça. Mais il y a une phrase que je retiens et qui fait le lien entre notre civilisation et la leur. Et pour eux, Dieu, c'est Voa, W-O-A. C'est le créateur, le générateur, ils disent aussi. Ils ont cette théologie que nous avons, la même, non duelle. Et ils nous transmettent cette phrase que je trouve étonnamment similaire à ce que nous disons dans ces groupes. Ils disent, nous ne disons pas « Voa fut » ni « Voa sera » mais « Voa est ». Donc Dieu est. Voilà, c'est là-dessus que je voulais terminé. C'est une civilisation qui a des centaines de milliers d'avance au niveau conscience sur la nôtre. Donc voilà, ce sont des grands frères qui nous tendre la main pour évoluer un petit peu plus vite. Et je les remercie au passage. Voilà, dans la joie de terminer ce groupe, je vous donne dès à présent rendez-vous, contrairement à ce que je fais d'habitude, dans une guidance forte de nous retrouver samedi 16 à 16h, ici. Voilà, sans aucun prérequis d'avoir lu quoi que ce soit, dans un groupe que je souhaite nombreux, pour refléter tout ce que nous sommes individuellement, toute notre diversité. Voilà, dans la joie de ces retrouvailles avec tous ces frères et sœurs, je vous dis à très bientôt et je sonne la fin du groupe.